Avant de commencer, j'adresse à ceux d'entre vous qui se souviennent de lui les salutations de Christian Delort. Christian Delort était pasteur à l'église réformée de Bourgoin. On a toujours gardé un contact très sympathique. Et donc il fait partie de la liste de distribution du journal et je lui ai envoyé le journal. Et puis donc, de temps en temps, il envoie un mot en disant ça, de saluer tout le monde. Donc je salue tout le monde. Nous lisons dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, au chapitre 2, j'ai oublié de noter le nom du chapitre, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'hésitation. Chapitre 2, versets 1 à 12. Je vérifie quand même. C'est bien ça. Et une large partie de ce que je vous propose, je le dois à Émile Nicole, qui était mon professeur d'Ancien Testament et chez qui nous avons mangé la semaine dernière. Vous saurez tout. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 12, je lis dans la version, la Nouvelle Bible Second, je pense. Il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui. Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon, son fils. Il lui dit, « Moi, je m'en vais selon le sort commun à tous. Sois fort et sois un homme. Garde les observances du Seigneur, ton Dieu, en suivant ses voies et en observant ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant loyalement devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. Garde les observances du Seigneur ton Dieu. » Ensuite, il continue, « Tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait au chef des deux armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter, il les a tués. Il a versé le sang de la guerre pendant la paix, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins et sur les sandales qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Tu agiras avec fidélité envers les fils de Barzillai, le Galaadite. Ils seront de ceux qui mangent à ta table, car ils ont agi de la même manière quand ils se sont joints à moi, alors que je fuyais pour échapper à Absalom, ton frère. Tu as avec toi Shimei, fils de Guéra, benjaminite de Baourim. Lui, il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui fis ce serment par le Seigneur, « Je ne te ferai pas mettre à mort par l'épée. Maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. C'est par le sang que tu feras descendre ses cheveux blancs au séjour des morts. » David se coucha avec ses pères et il fut enseveli dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son trône fut bien affermi. Jusqu'ici la lecture, voici les dernières volontés d'un roi, et pas de n'importe quel roi, probablement le plus grand roi d'Israël. Les dernières volontés de David transmises à son fils Salomon pour qu'il les exécute. Et parmi ces, il y aura des exécutions dans plusieurs sens du terme. Alors, dans ces dernières volontés, deux d'entre elles nous paraissent assez normales, et puis édifiantes. La première, c'est que David recommande à son fils d'être fidèle à Dieu et d'observer sa loi. Très bien. Et puis il recommande aussi d'être généreux envers les descendants d'un homme qui lui a prêté secours alors qu'il était dans une situation très très difficile. Jusque-là, pas de problème. Et on voit très bien, on voit très vite les instructions que nous pouvons, que nous devons en tirer. Nous aussi soyons fidèles à Dieu. Nous aussi soyons reconnaissants envers ceux qui nous font du bien. Et ce sont deux leçons importantes. Et je ne voudrais pas, en ne m'y attardant pas, donner l'impression qu'elles ne comptent pas. Au contraire, elles sont importantes, surtout la première, être fidèle à Dieu. Mais dans ces dernières volontés, il y a aussi deux autres instructions qui, par contre, elles, ont de quoi nous déconcerter. Puisque David demande à son fils de prendre soin de faire mourir deux personnes. D'abord, le chef de son armée, qui est un personnage très, très important, et qui est aussi son neveu. Et puis un nommé Shimei, qui a maudit David alors qu'il était en fuite lors d'un coup d'État, devant son fils Absalom. Et dans les deux cas, David explique à Salomon pourquoi il doit faire mourir ces deux hommes. Mais quand même, quand on lit le passage, on peut se dire, mais bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi, aujourd'hui, avec ? Pourquoi est-ce que Dieu a prévu pour les croyants de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils prennent connaissance de ça ? La Bible, c'est quand même pas le canard enchaîné, quoi. On va dire ça comme ça, avec tout le respect pour le canard enchaîné. Mais poser la question à Dieu, poser la question, c'est déjà commencer à y répondre. Parce que si nous faisons confiance à Dieu pour nous instruire par la Bible, ce n'est certainement pas pour rien que ces choses nous sont rapportées. Dieu doit quand même avoir quelque chose à nous apprendre par là. Pouvons-nous nous dire ? La première chose que ce texte nous fait sentir, et ce n'est pas propre à ce texte, mais ce texte donne l'occasion de le dire, et ce qui peut nous être très très utile, c'est que Dieu nous apprend pas seulement en nous donnant des certitudes, en nous donnant des repères sûrs, essentiels. Dieu nous apprend aussi en nous plaçant devant certaines situations qui sont embarrassantes. Et là, c'est bien le cas, puisqu'on a affaire à David, qui est le plus grand roi d'Israël. Jésus même sera appelé le nouveau David, le modèle des rois, l'auteur des psaumes, enfin de la plus grosse partie du livre des psaumes. C'est aussi, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est aussi l'inventeur de la musique dans le culte. Il est qualifié aussi dans le livre des Actes de l'homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, David, juste après avoir recommandé à son fils d'être fidèle au Seigneur, David lui demande de supprimer deux personnes. Et c'est un peu dérangeant. Et c'est probablement pas pour nous embêter, mais c'est aussi probablement parce que dans tout bon programme de formation, et la Bible est un programme de formation, il y a non seulement des règles claires, des théorèmes, des choses... mais il y a aussi des problèmes qui sont posés à l'étudiant. Et c'est en se coltinant à des problèmes qu'on progresse aussi. Et c'est parfois là qu'on progresse le plus. Et là, je crois qu'il faut éviter deux écueils. Le premier, ce serait d'ignorer les problèmes, de refuser de les voir. Non, ils ne sont pas là, c'est pas là. De ne retenir de la Bible que ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Puis le reste, oh, ça ne me parle pas, alors. On passe à autre chose. Je crois que ce serait un écueil. Le second écueil, ce serait l'écueil inverse, ce serait de se focaliser sur ces problèmes, de se désespérer quand on n'arrive pas à les résoudre, de vouloir à tout prix, tellement à tout prix, leur trouver une solution. Alors peut-être qu'il faudrait être un peu ou beaucoup patient, et même à l'occasion, accepter qu'on ne comprend pas. Deuxième écueil. Alors ici, ce qu'on peut dire au moins, c'est que nous sommes devant un récit. La Bible nous raconte ce que David a fait, ce que David a dit. Elle nous rapporte aussi ce que Salomon, son fils, a fait Et il a bel et bien fait mourir deux personnes, ces deux personnes. Mais voilà, c'est raconté. Raconter ne veut pas dire nécessairement approuver. Raconter ne veut pas dire non plus désapprouver. Raconter, c'est raconter. C'est dire, voilà, ce matin, à l'église, nous étions, je ne sais pas combien. C'est-à-dire, c'est donner les faits bruts sans forcément y associer un jugement de valeur négatif ou positif. Et du coup, il faut bien se rendre compte que tout ce qui est raconté dans la Bible n'est pas forcément recommandé. Et en nous instruisant par ce récit, eh bien Dieu nous oblige à réfléchir. Dieu nous engage dans un processus de méditation, de rumination, de discernement. Et certains personnages bibliques sont recommandables, d'autres, eh bien, ils ne sont pas trop recommandables. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout recommandables. Il y a des personnages bibliques qui mentent, il y a des personnages bibliques qui disent la vérité, et puis c'est compliqué parce que le même personnage biblique peut mentir un jour et dire la vérité le lendemain. Alors, il peut mal se conduire un jour et bien se conduire le lendemain. Et c'est comme ça, dans notre vie à nous aussi. Pas de surprise. Alors David est un personnage qui est essentiellement recommandable. Mais David aussi, nous le savons si nous sommes familiers de l'histoire, mais voilà, sinon. Entendons que David a commis deux crimes qui lui ont été reprochés par le prophète Nathan à l'époque. Il a couché avec la femme d'un de ses généraux, en profitant que le général était en train de se battre au front pour protéger le pays. Et puis, pire que ça, il a donné des ordres, puisque la femme en question était enceinte, donc c'était embêtant. Il a donné des ordres pour que le général soit placé en première ligne, comme ça, voilà. Il périt à la guerre, c'est un drame. Et c'est pas rien, ça. Mais en dehors de ça, David est plutôt considéré comme quelqu'un de bien. Et tout ce que dit David ici à propos de la fidélité de Dieu, bien sûr, on ne peut que la fidélité à Dieu et de Dieu, on ne peut que l'approuver. Lorsque nous cherchons à apprécier la conduite des personnages bibliques, nous avons à tenir compte, je crois, de trois écarts importants entre eux et nous. D'abord, la différence d'époque. Entre David et nous, quand même, il y a 3000 ans. Et les choses changent en 3000 ans. Même au cours de notre vie, pour les plus anciens d'entre nous, je pense que vous pouvez dire que les choses ont changé. Ne serait-ce que cette chose qu'on appelle Internet. Voilà. Qui n'était pas là, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, non, ça n'a pas toujours existé. Non, 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 non. Donc là, David et nous, 3000 ans. Il y a la différence aussi de culture. On n'est pas en France en 2024, on est dans le peuple juif 1000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple juif. Et puis il y a la différence aussi entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre le régime d'Israël avant la venue du Christ et le régime qui apparaît avec la venue du Christ. Donc il y a un écart. Alors, deux choses à ce propos. La conscience de cet écart ne doit pas être minimisée sous prétexte que l'homme est toujours le même et finalement c'est exactement pareil. Ben non. Cet écart ne doit pas être exagéré non plus. Mais la conscience de cet écart est nécessaire, est importante pour nous, parce qu'elle doit nous garder de copier tout ce qui est raconté, déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, inversement, avoir conscience de cet écart doit nous garder de juger ces personnages et de les condamner selon nos critères à nous. Du genre, ah ben David est rancunier, hein. Voyez-le, sur son lit de mort, il pense à se venger. Et quand on a conscience de cet écart, on peut se dire, mais est-ce que nos propres critères sont si justes que ça? Et puis d'autre part, l'écart entre lui et nous doit nous aider à prendre conscience que l'appréciation n'est pas si évidente qu'à ce qu'elle nous paraît. C'est un peu complexe. Parce que David n'est pas un simple particulier, David c'est le roi. Et à l'époque, le devoir du roi, c'est de rendre la justice. Et à l'époque, rendre la justice, c'est aussi, et c'est même au plus haut niveau, c'est aussi de faire mourir les criminels. Et autant son général que le personnage de Shimei, les deux sont des criminels. Joab, le général, parce qu'il a tué en temps de paix, et Shimei, parce qu'il a maudit le roi. Et à l'époque, maudire le roi est puni de mort. Donc dans le contexte de l'époque, il n'y a rien de choquant à ce qu'on fasse mourir un meurtrier et à ce qu'on fasse mourir quelqu'un qui a maudit le roi. C'est légitime, et plus que ça, on considère même que c'est une obligation. C'est le devoir d'un roi qui respecte la justice. Il doit le faire. Et en demandant à son fils de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même, ce qu'il n'a pas pu faire lui-même, David veut laver son règne de ces deux tâches qui le souillent. Un général qui a été pendant tout le règne de David son général et qui en même temps a commis deux crimes de sang-froid, et un homme qui a maudit le roi et qui est toujours en vie. Et si on lit la suite du récit, on se rend compte que Salomon, qui va exécuter ces personnes, à chaque fois va prononcer une parole de bénédiction sur David et sur sa dynastie. Au verset 33, « Que les crimes de Joab retombent sur lui et sa famille, mais pour David et sa descendance, sa maison, son trône, il y aura paix pour toujours de la part du Seigneur. » Puis verset 45, « Le Seigneur fait retomber sur toi ta méchanceté, mais le roi Salomon est béni et le trône de David est affermi devant le Seigneur pour toujours. » Alors, est-ce que tout est réglé pour autant? Et c'est pas si sûr. Car quand même, il reste un malaise dans chaque cas. D'abord, par rapport au général. Quand Joab a assassiné deux autres généraux, et notamment un qui venait faire la paix avec David, David a réprouvé le crime de Joab, et il a même fait un bel éloge funèbre par rapport à celui qui a été assassiné, mais il a quand même maintenu Joab dans ses fonctions de général. En expliquant que Joab et son frère, qui étaient les militaires principaux, étaient plus forts que lui. Et donc il a gardé Joab comme général. Et on peut se poser la question, mais est-ce que la raison d'État l'emporte sur la justice? Ou bien est-ce qu'il faut admettre que le pouvoir des gouvernants est quand même toujours limité? Ou les deux en même temps. Voilà pour Joab. Shimei, lorsqu'il a maudit David, David était en fuite. Il n'avait plus le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que Shimei l'a insulté. Et au moment où on l'insultait, David n'était pas tout seul. Il y avait une petite troupe avec lui. Un des soldats de David, qui était d'ailleurs un frère de Joab, a demandé à David, littéralement, l'autorisation de faire taire ce chien crevé en lui coupant la tête. Excusez-moi le langage, c'est les mots qu'il a employés, 2 Samuel 16, verset 9. Et David a refusé, et il a prononcé ces paroles qui sont admirables d'humilité, de soumission à Dieu, qui lui faisait payer ses crimes à lui, David. S'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit de le faire. Peut-être que Dieu, en voyant ma peine, changera cette malédiction en bien. Mais lorsque les troupes de David reviennent à Jérusalem, l'un des premiers à se précipiter au devant de David pour l'accueillir, c'est Shimei. Il se prosterne devant David. Il lui garantit que toute la tribu de Benjamin va lui prêter allégeance. Et il lui demande de lui pardonner. Et de nouveau, le même frère de Joab propose à David de tuer Shimei. Et David lui répond, ce n'est pas le moment de me faire des ennemis. Et il promet à Shimei la vie sauve. Alors pourquoi ? Pourquoi demander maintenant, alors que David va mourir, de faire mourir Shimei ? Est-ce que David est rancunier ? Est-ce que David est un peu superstitieux, pensant peut-être que pour annuler une malédiction, il faut faire mourir celui qui l'a prononcé ? Ça, c'est une deuxième hypothèse. Est-ce que c'est une question de principe ? Troisième hypothèse. Je pose les questions, mais nous n'avons pas la réponse. C'est comme ça. Ce qui nous regarde aujourd'hui, par contre, ce n'est pas de savoir de manière absolue, avec certitude, si David a eu raison ou si David a eu tort. Un peu raison et un peu tort. David est mort depuis longtemps, Shimei aussi. Et c'est à Dieu qu'il revient les juger. Mais ce qui nous revient aujourd'hui, c'est l'effet que produit en nous le fait de réfléchir à la conduite de ces deux personnes et ce que nous en retirons pour nous-mêmes. La première chose, c'est que ça nous fait réfléchir, et c'est très utile pour nous. Ça peut nous aider à réfléchir à notre propre conduite et à celle de nos semblables. Ça nous rappelle, par exemple, que la conduite des autres n'est pas toujours si facile à apprécier. Et que les gens les plus recommandables peuvent se tromper ou peuvent parfois avoir des conduites surprenantes et peu recommandables. Et puis, on pourrait s'y arrêter en détail. On se rend compte que le texte convoque des questions qui sont complexes. La raison d'État par rapport à la justice. Et je dis la raison d'État, mais c'est parfois la raison d'Église. On a des difficultés parfois en Église devant des personnes qui ont une certaine aura, à se placer devant eux en leur disant non, parce qu'on sait peut-être que la personne a trop de pouvoir. Ça arrive aussi en Église. Les limites, les pouvoirs des dirigeants, des responsables, dans la société, au travail, dans l'Église. Le pouvoir réel, le pouvoir supposé des malédictions. Donc ça nous amène à réfléchir, ça contribue à nous faire réfléchir. Surtout, ça nous fait sentir que au travers même de cette réflexion, que la parole de Dieu concerne le monde réel. C'est là où nous sommes, avec toutes les ambivalences, les ambiguïtés parfois. Et c'est là, dans ce monde réel, que Dieu est venu nous sauver, en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et si nos réflexions nous conduisent parfois à hésiter quant à la façon d'apprécier les comportements des personnages de la Bible, et même quant à notre propre jugement, il y a de bonnes choses à en tirer. Parce que c'est une très bonne chose, à mon sens, que de ne pas être absolument sûr de son propre jugement. Et en même temps, et heureusement, nous bénéficions de directives qui sont sûres, pour ne pas nous égarer sur l'essentiel. Et en particulier sur la mission qui est la nôtre, dans cette nouvelle alliance, dans l'histoire qui a commencé avec la venue de Jésus. Salomon a reçu les dernières volontés de son père David. Eh bien, nous, comme chrétiens, ce n'est pas les dernières volontés de notre père David que nous avons reçues, mais nous avons reçu la mission. Nous sommes les héritiers de la mission du fils de David, Jésus, qui avant de quitter physiquement cette terre pour s'asseoir à la droite de Dieu, nous a confié à l'Église, a confié aux apôtres et à l'Église un ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, apprenez-leur à faire ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est clair. Et ça, ça ne présente pas de difficulté. Enfin, la seule difficulté, c'est nous qui la plaçons lorsque nous hésitons parfois à le faire. Mais cette mission, si nous l'entendons bien, ce n'est pas de rendre justice sur la terre, de mettre les uns d'un côté et les autres de l'autre. Ça, c'est pas à nous de le faire. C'est le roi qui faisait ça, qui en avait la responsabilité. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la justice ne doit pas être rendue sur terre ou que Dieu, ça n'intéresserait pas. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit d'entendre la mission qui est la nôtre. Et la mission qui est la nôtre, à laquelle Jésus convie ses disciples, elle donnera en tout cas un axe majeur à notre vie et à notre action, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit communautaire, et ça jusqu'à son retour. Et nous avons la joie d'avoir dans ce même texte, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, d'avoir la promesse que pour cela, Jésus est avec son peuple jusqu'à la fin du monde.